Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce lundi 21 octobre commence avec un accord au Roland de sacrifice.
Ils ont sauvé plus de 300 emplois sur le site de General Electric à Belfort. Les salariés ont voté un accord difficile de compromis et donc de sacrifice également. Le compte n'y est pas pour les agriculteurs. Leur ministre Didier Guillaume dresse un bilan sévère de la loi alimentation un an après son vote. Même les hôpitaux sont la cible des cyberpirates. Celui d'Issoudun dans le centre de la France s'est vu réclamer une rançon après une attaque. Nous irons aussi au Liban, où le gouvernement plie sous la colère des manifestants et promet de réduire de moitié les salaires des dirigeants politiques. Et au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau tente de garder le pouvoir, élection générale aujourd'hui. Nous vous emmenons enfin à la répétition d'un chœur exceptionnel, 2000 choristes sur la même scène. Des orages dans les Pyrénées-Atlantiques, l'Aude et l'Hérault, alerte orange de Météo France, le point complet à la fin de ce journal.
À 18h15, un jour dans le monde, ce soir nous sommes au Chili, des manifestations sociales qui sont sorties de leur boîte très brusquement, mais une contestation qui vient de loin, dans un pays dont on disait volontiers qu'il était le modèle de l'Amérique latine. On y vient tout de suite. Ce soir, le bruit du monde, tiens, ça va vous faire plaisir, Amélie, est à Cuba, où tout ce week-end, on a célébré Alicia Alonso, qui est morte jeudi. Vous verrez ce qui s'est passé dans son école de danse, notamment. 19h20, le téléphone sonne. Nous aussi, nous plongeons dans cette folie Léonard, qui précède l'ouverture de l'exposition Léonard de Vinci. Ce qui nous intéresse, c'est le personnage, connu pour ses peintures, bien sûr, mais il fabriquait aussi des machines de guerre, Léonard, un personnage complexe, paradoxal aussi, dans la tête de Léonard de Vinci, avec vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter.
Les salariés ont donc voté pour sauver le plus d'emplois possible.
Chez General Electric à Belfort, près d'un millier d'entre eux ont approuvé une nouvelle proposition de la direction. Sur les 800 suppressions de postes prévues au départ, 307 vont être sauvés. En échange, les employés s'engagent dans un plan d'économie drastique. Ils renoncent à 10 jours de RTT et vont devoir augmenter leur productivité. Voici la Guitoune a sondé les salariés tout au long de cette journée de vote à Belfort. Un vote dans la douleur.
Pendant que les salariés écoutent religieusement la présentation du projet de la direction par les syndicats, Nicolas, badge G autour du cou, quitte brutalement l'Assemblée, ce quinquagénaire refuse de voter.
Je préfère pas. Tout le monde va dire que cet accord, tout le monde est gagnant, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, c'est du 50-50. Dans tous les cas, c'est les salariés qui vont trinquer le plus.
Il prend la direction de sa voiture et part très ému.
20 ans et 13 ans sans augmentation. J'ai donné ma santé, ma vie de couple.
Dans le hall du siège historique de GE, dans un bâtiment de briques rouges, la foule des salariés, plusieurs centaines d'entre eux votent. Fabien, en tenue d'ouvrier en ressort, lui a refusé de lever la main, il a voté non.
Non, pourquoi je travaillerais plus? En plus, au moment d'enlever des salaires, pourquoi je travaillerais plus? Il est où l'intérêt? Quelqu'un qui a un salaire confortable, bah lui, il va lever la main. Puis après, on va dire aux gens, aux ouvriers encore, de montrer l'exemple, alors qu'on va en mettre 500 dehors.
Mais c'est bien une majorité de oui qui l'a emporté, à l'image de Didier, technicien depuis maintenant 30 ans chez GE.
J'ai encore une boule dans le ventre, là. C'est difficile à vivre. Ma femme a déjà quitté l'entreprise juste avant l'annonce du plan. Deux personnes au Pôle emploi, c'était un truc insoutenable, quoi. J'ai dit encore une famille à nourrir, des études à payer, un crédit immobilier. On n'avait pas le choix.
Après le vote des salariés, le piquet de grève et les blocages ont tous été levés.
Le reportage de Wassila Guitoune, au total donc 485 postes seront quand même supprimés à General Electric. À la SNCF, la colère des cheminots ne se calme pas, même si le trafic redevient normal sur les rails. En grève depuis vendredi dernier, ils protestent contre la présence d'un seul agent par TER. Les personnels ont fait valoir leur droit de retrait après un accident dans lequel le conducteur a été blessé et a dû s'occuper seul de la mise en sécurité du train et des passagers dont certains étaient blessés eux aussi. Par ailleurs, l'inspection du travail d'Alsace demande aujourd'hui à la direction régionale des TER de suspendre la circulation des trains avec un agent seul à bord. On y revient dans le journal de 19h. Les agriculteurs aussi ont des raisons d'être mécontents. Leur ministre en personne, Didier Guillaume, reconnaît en conseil des ministres ce matin que le compte n'y est pas. La loi alimentation qui devait garantir une meilleure rétribution aux producteurs ne porte pas ses fruits. Tous les acteurs de l'industrie agroalimentaire ne jouent pas le jeu, dit le ministre.
Aujourd'hui, je pense que la profession agricole, c'est la seule profession qui vend en dessous du prix de revient, ce qui explique qu'il y a autant d'agriculteurs en grande difficulté, qui arrêtent, qui sont très endettés. Lorsqu'un producteur de lait vend son litre de lait à 33 ou 34 centimes et qu'on le retrouve à 1 euro, le compte n'y est pas. Quand un éleveur vend son kilo de bœuf à 3,50 euros et que l'on retrouve le même kilo de bœuf dans une grande surface à 12 euros ou à 15 euros, le compte n'y est pas. Si certains ne jouent pas le jeu, on sera obligé d'aller plus loin en prenant des sanctions, parce qu'il est inacceptable que certains jouent sur la vie ou la mort de certaines filières ou de certains agriculteurs, alors qu'il y a la possibilité que chacun gagne sa vie. L'objectif de la loi Egalim, c'était une meilleure répartition de la valeur. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un maillon de la chaîne où la répartition de la valeur n'y est pas. C'est le maillon amont, c'est-à-dire les agriculteurs, les producteurs.
Et quand les denrées arrivent jusque dans nos assiettes et ne sont pas consommées, le gouvernement vient de prendre une ordonnance contre le gaspillage alimentaire, une extension de la loi Garot. Les cantines privées devront, comme les cantines publiques aujourd'hui, prendre des mesures pour éviter de jeter de la nourriture. Par ailleurs, la javelisation des aliments invendus sera interdite. Elle l'était pour les supermarchés. Elle le sera aussi désormais pour la restauration collective et l'industrie agroalimentaire.
Les entreprises françaises victimes de cyberattaques, c'est de plus en plus fréquent.
Et cela concerne aussi maintenant les institutions publiques. L'hôpital d'Issoudun, dans l'Indre, a été visé par une intrusion informatique. La direction présente aujourd'hui le bilan de cette attaque, près de 3 semaines après les faits. Selon l'hôpital, pas de données personnelles et médicales volées ou perdues, mais cela aurait pu s'avérer bien plus grave, Manon Klein.
À l'origine de cette attaque, un virus caché dans la pièce jointe d'un email. Il s'attaque à tout le réseau informatique de l'hôpital. Très vite, les services techniques repèrent un message de rançon, un message qui réclame 900 $. Évidemment, l'hôpital ne les a pas payés. Tout a été débranché et nettoyé. Par chance, aucune donnée personnelle n'a été perdue ou volée, ni celle des patients, ni celle des 480 agents de l'hôpital. C'est ce qu'assure le directeur Marc Kugelstadt. Ce type d'attaque, c'est désormais pour lui une vraie préoccupation.
Le risque zéro n'existe pas. Les établissements de santé, qu'ils soient privés ou publics, sont de plus en plus victimes de ce genre d'attaques. L'idée, c'est quand même de se protéger. Donc, les services informatiques vont prendre de plus en plus d'importance dans le système de soins français.
Pour éviter une nouvelle cyberattaque, l'hôpital d'Issoudun investit dans un nouveau pare-feu et renforce son dispositif de sécurité. Il y en a pour 20 000 euros. S'ajoute à cela les près de 25 000 euros qu'il a fallu débourser pour stopper le virus.
Une plainte a été déposée. On ne sait pas qui se cache derrière la cyberattaque. Les auteurs de ce genre de demandes de rançon sont dur à retrouver. 4 ans d'enquête, un dossier tentaculaire, celui des attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan, à Saint-Denis et aux terrasses parisiennes. Les juges d'instruction annoncent la fin des investigations et ouvrent la voie à un procès. Les magistrats antiterroristes ont compilé 4000 cotes. 1700 personnes se sont constituées partie civile. Les attaques revendiquées par Daesh ont fait 130 morts et plus de 350 blessés. 14 personnes ont été mises en examen, dont Salah Abdeslam, le seul membre des commandos djihadistes encore en vie. Enquête terminée aussi pour l'attaque du Thalys à bord du train Amsterdam-Paris en août 2015. L'homme qui a ouvert le feu dans le train avant d'être maîtrisé par des militaires américains en vacances est poursuivi avec 4 autres personnes, son passeur entre la Syrie et la France et ses complices dans la préparation de la fusillade.
Au Liban, le gouvernement donne des gages aux manifestants.
Le Premier ministre Rafik Hariri annonce cet après-midi des réformes, une réponse à la contestation qui gronde depuis jeudi. Les protestataires, chaque jour un peu plus nombreux dans les rues du pays, demandent le départ de toute la classe politique. Ils la jugent corrompue et impuissante. Alors le chef du gouvernement promet aujourd'hui une baisse de moitié des salaires des présidents, ministres et députés. Il promet aussi des gestes fiscaux. Cela sera-t-il suffisant? Pas sûr, comme l'a constaté Chloé Doma dans le cortège à Beyrouth. Reportage.
Pas de nouveaux impôts, pas de nouvelles taxes pour remplir les caisses vides de l'État, mais une réduction de 50% des salaires des responsables officiels, une contribution de 3,3 milliards de dollars des banques et une privatisation du secteur des télécoms. Le Premier ministre Saad Hariri tente de calmer la colère en épargnant les Libanais. Mais eux ne sont pas convaincus, à l'image de Carole.
Ce sont des résolutions qui ne sont pas tenues. Nous avons passé déjà par ça. Il y a un proverbe libanais qui dit « Yalli jarrab lim jarrab kun aqlum kharrab », ce qui veut dire en français « Celui qui essaye ce qui a déjà été essayé a la tête dérangée ». Ça ne marche plus avec nous les Libanais. Nous ne voulons plus de cette classe politique.
Une classe politique héritée de la guerre civile à laquelle les manifestants ne croient plus aujourd'hui, quel que soit le parti, la communauté, la religion. Ce soir, ils seront encore des dizaines de milliers à rester mobilisés pour mettre fin au système. Chloé Doma, Beyrouth, France Inter.
La contestation sociale prend des airs de guerre civile au Chili. Guerre, le mot a été employé par le président chilien. Les émeutes ont fait 11 morts selon le dernier bilan des autorités. Dans la capitale Santiago, après 3 jours d'émeutes, les magasins sont fermés, les transports à l'arrêt, l'armée patrouille dans les rues. Tout est parti de l'augmentation du prix du ticket de métro, l'étincelle qui a déclenché l'explosion sociale dans un pays en crise économique. Pas de procès contre les géants pharmaceutiques aux États-Unis. Les 4 laboratoires qui s'apprêtaient à comparaître, accusés de la crise des opiacés, ont trouvé un accord à l'amiable. On estime à 130 le nombre de morts par overdose chaque jour dans le pays à cause de ces antidouleurs prescrits à tout va et très addictifs. Environ 2700 plaintes ont été déposées. L'accord amiable pourrait se chiffrer en dizaines de milliards de dollars. Au Canada voisin, le Premier ministre Justin Trudeau tente aujourd'hui de décrocher un second mandat et rien n'est gagné. Les 27 millions d'électeurs canadiens votent depuis quelques heures pour renouveler leurs députés. Le libéral Justin Trudeau se retrouve au coude à coude avec le conservateur Andrew Scheer. Nathanaël Charbonnier, notre envoyé spécial à Montréal, s'est rendu dans le bureau de vote de Justin Trudeau.
Nous sommes dans le quartier Papineau, c'est le quartier où le Premier ministre Justin Trudeau est venu voter il y a quelques minutes. Pas de déclaration, pas de passe-droit, il a fait la queue comme tout le monde avec sa femme et ses 3 enfants. Large sourire de façade, il sait qu'il joue son poste. Personne n'imagine qu'il aura la majorité absolue ce soir, mais il peut encore sauver sa peau s'il arrive en tête. Et une fois la tempête médiatique passée, les Québécois ont continué de voter, conscients que l'enjeu est important, comme Catherine, qui a voté plutôt à gauche.
Je pense que de plus en plus, dans l'ère qu'on vit, là, il faut faire attention. Je pense qu'il faut bien s'impliquer dans la politique parce qu'il y a des choses qui peuvent changer rapidement, je pense. Il y a ça, mais il y a aussi d'autres actions qu'on peut faire à part voter. Puis c'est important aussi de voir à ça, là, parce que ça ne va pas être suffisant, là, juste aller voter une fois par 4 ans.
Il va falloir continuer après, c'est ce que vous nous dites.
Exactement, faire d'autres actions aussi que le vote.
Pas de chèque en blanc pour la prochaine majorité qui devra faire avec la pression des associations, notamment environnementales. D'ailleurs, à la sortie du bureau de vote, un militant écologiste était présent avec en main une pancarte rappelant l'urgence climatique. À Montréal, Frédéric Kérou, Nathanaël Charbonnier, France Inter.
Et on devrait connaître les résultats dans la nuit. La police présente ses excuses. C'est une première à Hong Kong depuis le début de la crise sociale en juin. Les forces de l'ordre ont demandé pardon au principal imam et aux dirigeants de la communauté musulmane. Après avoir projeté de la teinture bleue sur une mosquée hier, la plus grande du territoire semi-autonome, secouée par des manifestations anti-Pékin.
Allez, la musique adoucit les mœurs, donc paraît-il. Terminons donc en chanson, Amélie.
Et un cœur format XXL pour un spectacle unique en Europe. 2000 choristes accompagnés d'un orchestre symphonique sur la même scène. Le concert doit avoir lieu le week-end prochain à Amnéville, en Moselle. Les chanteurs viennent d'Alsace, de Lorraine, mais aussi de régions parisiennes. Ils ont répété par petits groupes, mais aujourd'hui, c'est l'heure de la réunion à 2000. Thierry Collin nous emmène à la répétition.
Chaque choriste a l'impression de vivre une aventure unique, le résultat de 10 mois de répétition.
Des frissons. Nous, on était dans une petite chorale de 15, donc là, à 2000, on a l'impression d'un vent là, qui nous soulève. C'est magnifique, c'est autre chose.
Ça va changer nos petits spectacles dans les églises. De la pop, un orchestre rythmique en plus dedans.
C'est magique, quoi.
Des choristes dirigés par Jacques Ilox, ancien prof de musique de collège, qui compose les partitions pour tous les pupitres.
Arrêtez les assis, je suis là, ok.
Les derniers sont à 50 mètres de moi, donc il faut anticiper. On agrandit un peu tout. On agrandit un peu les gestes, les mimiques, on anticipe plus. Mais intrinsèquement, c'est la même chose que de diriger 5 ans. Je joue aussi avec les contrastes. Je sais qu'un piano chanté tout doux à 2000, il y a une puissance qui est redoutable. On s'attend à chanter fort à 2000. Mais un piano avec cette masse, c'est aussi magnifique.
Un chef de chœur qui mélange chanteur aguerri et novice avec 10 mois de répétition.
On a envie de le suivre. Il est génial, c'est un gars très très compétent.
Il a beaucoup d'humour, il est très sympathique, il est très vivant. Puis alors moi j'adore ses arrangements. C'est des partitions qui sont super bien écrites, elles sont plus modernes que ce qu'on peut faire peut-être dans une chorale de village.
Mêler musique classique, variété et rock avec un orchestre symphonique, c'est un cocktail unique renouvelé tous les 2 ans depuis une décennie.
Et si vous chantiez, Fabienne, dans ce chœur à 2000, ben on n'entendrait pas
mais
vos fausses notes.
Je chante extrêmement bien.
Concert les 25, 26, 27 octobre, le week-end prochain à Amnéville, en Moselle.
Eh ben j'y serai. Vous pouvez me voir.
Dans les spectateurs, on est d'accord.
Absolument. Bon, Amélie, à tout à l'heure quand même. Dans un jour dans le monde, ce soir. Nous sommes au Chili, éruption sociale et répression de l'armée aussi. Nous allons à Cuba parler de danse classique et puis le téléphone sonne. Je vous le remets en tête. On parle ensemble ce soir de ce personnage paradoxal qu'est Léonard de Vinci, que l'on s'apprête à célébrer au Louvre pour cette exposition exceptionnelle. Léonard, le peintre des Jocondes, des Vierges à l'enfant, bien sûr, mais aussi l'ingénieur qui fabriquait des machines de guerre, parfois d'ailleurs épouvantables, qui était cet homme l'homme qui a marqué son siècle et au-delà. Vos questions 01 45 24 7000. Élodie Kella Kella, le nez au vent.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Et trois départements, Élodie, du Sud-Est sont en vigilance orange.
Oui, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault pour orages et pluies inondations. Alors des orages violents gagneront le Languedoc-Roussillon demain matin. Les quantités de pluie pourront être importantes en peu de temps sur les départements en vigilance orange. On attend aussi de la grêle, de violentes rafales de vent. Ce vent fort de Sud-Est pourrait d'ailleurs empêcher l'eau de s'écouler vers la mer. Soyez très vigilants, hein, d'autant que ce temps persistera jusqu'à mercredi avec un regain d'activité dans la nuit de mardi à mercredi. Ensuite, il progressera vers la Côte d'Azur dans la journée de mercredi, puis vers la Corse pour jeudi.
En revanche, c'est plus calme au nord.
Oui, il faudra juste composer avec la grisaille le matin. Ça s'éclaircira l'après-midi, surtout du nord-ouest au Pas-de-Calais et sur le nord-est. Et puis, il fera 12 à 19 degrés jusqu'à 22 vers la Côte d'Azur et 29 pour la Corse.
Et Élodie Kella Kella de Météo France. Merci beaucoup, Élodie. À tout à l'heure, après 19h.